Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
RFI midi, 2 heures ensemble avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux et nos invités pour mieux comprendre l'actualité dans le monde. À la une aujourd'hui, mercredi 12 mars, les nouvelles taxes américaines, les droits de douane considérablement revus à la hausse, mis en place aujourd'hui. 25% pour l'acier et l'aluminium. L'Union européenne promet une réponse, nous verrons laquelle dans un instant avec notre correspondant à Bruxelles. Et puis nous entendrons des salariés du secteur de la sidérurgie en Espagne qui s'inquiètent du climat général.
Tout le marché international va être touché, évidemment. L'Allemagne est la locomotive de l'acier en Europe. C'est un client direct. Mais l'Allemagne est aussi impliquée dans des projets chez nous ou ailleurs avec nos partenaires. Tout se répercute. Et c'est sûr que les frais de douane ne vont rien arranger à la situation actuelle.
Reportage dans la région espagnole des Asturies à écouter dans un peu moins d'une heure. Juste avant cela, nous reviendrons sur le projet de cessez-le-feu en Ukraine. 30 jours sans combat, l'accord élaboré hier par les États-Unis et l'Ukraine doit maintenant être validé par la Russie. Moscou dit attendre une proposition officielle et poursuit son offensive militaire, continue de gagner du terrain. Nous ferons le point avec notre invité dans 3 quarts d'heure. Du football aussi au programme et la Ligue des Champions qui se poursuit 2e soirée ce mercredi. Après le PSG, un autre club français vise une qualification en quart de finale. Mais cela relèverait vraiment de l'exploit pour Lille qui affrontera Dortmund ce soir. L'entraîneur veut garder la tête froide.
Il ne faut pas inverser les choses, il ne faut pas qu'on ait à l'esprit qu'on peut rentrer dans l'histoire, que c'est un match peut-être le plus important pour le club, etc. Il faut simplement se concentrer sur ce qu'on a à faire pour atteindre cet objectif.
Reportage auprès des Lillois à écouter dans quelques minutes et puis le journal des sports, bien sûr, comme tous les jours, à midi et quart en temps universel. Et puis juste après le journal de 13h, toujours en temps universel, rencontre avec le grand photographe brésilien Sebastião Salgado, dont la dernière exposition donne le coup d'envoi de la saison France-Brésil en ce moment en France. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI, l'Europe à midi.
C'est un pas de plus dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Comme il l'avait promis, le président américain met en place des droits de douane de 25% dès aujourd'hui sur tout l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis. Les Européens ont tout de suite annoncé une riposte. Il faut dire qu'ils ont eu le temps de se préparer. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, l'Union européenne va donc dégainer rapidement des contre-mesures.
Oui, effectivement, des contre-mesures qui sont déjà prêtes, parce que une bonne partie de sa réponse est même prête depuis longtemps. En réalité, la première volée de contre-mesures, ce seront celles qui avaient déjà été mises en place après l'offensive commerciale de Donald Trump de 2017, lors de son premier mandat. En 2018, une liste de plus de 180 produits américains avait été établie, avec à la fois des droits de douane réciproques sur l'acier et l'aluminium, mais aussi des droits de douane sur des produits symboliques, qui sont en fait des mesures de rétorsion. Il y a évidemment les plus visibles comme le bourbon, les jeans ou les motos Harley-Davidson, mais il y a aussi des produits qui viennent spécifiquement d'États ou de circonscriptions tenues par le Parti républicain. On pense aujourd'hui à la Louisiane ou à la Floride, par exemple, à Bruxelles. Cette liste-là, elle est prête à entrer en vigueur parce que ces mesures avaient uniquement été suspendues lors de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Elles sont d'ailleurs suspendues jusqu'au 31 mars. Elles reprendront donc le 1er avril.
Et donc il y a une deuxième volée de mesures qui sont prévues pour un peu plus tard, pour la mi-avril, avec pour objectif que les droits de douane européens s'élèvent au même montant que ceux décidés par les États-Unis.
Oui, parce que les mesures de 2018 ne suffisent pas à atteindre 26 milliards d'euros. 26 milliards, c'est le montant des exportations européennes qui seront touchées, selon le calcul de la Commission. D'abord, parce que la guerre commerciale du premier mandat de Donald Trump a fait baisser le volume des exportations européennes. Et ensuite, parce que le calcul de 2018 comprenait aussi les exportations britanniques, ce qui n'est évidemment plus le cas depuis le Brexit. Il y aura donc ce deuxième volet de mesures. Elles seront négociées avec les États membres et après consultation avec toutes les parties prenantes, à la fois les consommateurs et les producteurs, le COREPER, c'est-à-dire le comité des ambassadeurs représentants permanents des États membres à Bruxelles, a été informé ce matin. Les consultations sont donc lancées. Elles devraient aboutir, vous l'avez dit, à la mi-avril, probablement vers le 12 ou le 13 avril. Des nouveaux produits, beaucoup plus que dans la première liste. Et puis, en même temps, il y a en parallèle des négociations. Le commissaire européen au commerce, Šefčovič a été chargé par la Commission européenne. Ursula von der Leyen l'a annoncé ce matin à 8h de nouvelles négociations. Mais Maroš Šefčovič était déjà à Washington en février pour prendre des contacts avec toutes les parties prenantes de cette nouvelle administration américaine. Il n'avait pas eu beaucoup de retours sur cette négociation-là. Et il y a peu de chances, pense-t-on ici, qu'il arrive à faire revenir Donald Trump en arrière.
Pierre Benazet, en direct de Bruxelles, réaction rapide et ferme donc de l'Union européenne à la hauteur des décisions américaines. En revanche, c'est beaucoup plus timide du côté du Royaume-Uni. Londres s'est contenté d'évoquer sa déception, Emeline Vin.
Le gouvernement britannique est, je cite, évidemment déçu de l'imposition de droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, mais préfère garder la tête froide dans son approche et ne pas imposer de mesures immédiates en réplique, comme l'a fait l'Union européenne. James Murray, ministre en charge de la taxation, estime que les deux situations ne sont pas comparables.
Nous sommes dans une situation bien différente de l'Union européenne, du fait de la visite du Premier ministre Keir Starmer le mois dernier à Washington. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont entamé des négociations rapides pour un accord économique et ces droits de douane mondiaux interviennent en plein milieu de ces discussions. Nous ne voulons pas que cela perturbe notre travail. Nous pensons qu'il faut le continuer avec pragmatisme, sans réagir de manière impulsive, pour garantir un accord qui serait dans l'intérêt des entreprises britanniques.
En clair, ne pas froisser Washington avant la fin des négociations sur un potentiel accord commercial. Cependant, le secteur de l'acier britannique traverse déjà une période difficile, marquée par l'augmentation des coûts de production. Les syndicats s'inquiètent fortement de ces droits de douane et exigent une réponse de la part du gouvernement. Certains réclament de devenir une infrastructure nationale critique qui oblige les entreprises publiques à acheter de l'acier britannique. Emeline Van Londres, RFI.
L'autre sujet majeur en Europe aujourd'hui, c'est l'accord trouvé hier entre les États-Unis et l'Ukraine sur un cessez-le-feu de 30 jours. On ne connaît pas encore les détails, la Russie non plus. Le Kremlin dit ce matin attendre d'être informé par Washington en évoquant un coup de téléphone à venir entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et le porte-parole de la présidence russe insiste sur les avancées sur le terrain en Ukraine d'une part, mais surtout dans la région russe de Koursk, en partie occupée par l'armée ukrainienne depuis le mois d'août dernier. C'est un levier de négociation pour Kiev, mais les militaires ukrainiens perdent du terrain. Selon des informations de Londres, ils ne contrôlent plus que 300 km² contre 1400 il y a 7 mois. Ils ont tout de même lancé une nouvelle attaque ce matin qui a fait 4 morts dans une usine de Koursk, selon le gouverneur de la région. Nous ferons le point sur l'état des forces dans un peu plus d'une demi-heure avec notre invité.
RFI, l'Europe à midi.
La guerre en Ukraine, les tensions croissantes entre la Russie et l'Occident se jouent aussi dans les récits, dans la manière de présenter les choses. Et en Hongrie, pays dirigé par un Premier ministre ouvertement pro-russe, la désinformation prend une ampleur toute particulière. Au-delà de la diffusion de fausses nouvelles, on voit s'afficher une communication sophistiquée qui fait part de faits réels pour les déformer, les manipuler et aboutir à des récits, en fin de compte, totalement mensonger. Alors, quelques rares médias indépendants, comme le site Lakmouz, se concentrent sur le fact-checking pour rétablir la vérité. Mais la lutte est très déséquilibrée, Florence Labruyère.
Depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie, de mystérieux navires sabotent régulièrement des câbles sous-marins en mer Baltique, des câbles essentiels pour la communication entre Finlande, Suède, Estonie et Allemagne. Moscou est soupçonné d'être à la manœuvre et de mener une guerre hybride contre les Occidentaux. Les dirigeants européens condamnent ces actes, mais la Hongrie reste muette. Selon le géopolitologue Csaba Kanz, le gouvernement de Viktor Orban est dans l'orbite de Moscou.
Non seulement le gouvernement hongrois ne veut pas réagir à cette déstabilisation, cette guerre hybride menée par la Russie, mais d'une certaine façon, il la soutient. Par exemple, la télévision publique hongroise, enfin soi-disant publique, est devenue complètement pro-russe et pro-chinoise. Selon des sources fiables, le numéro 2 de l'ambassade russe en Hongrie rencontre régulièrement la direction du consortium des médias pro-gouvernementaux et ils discutent des thèmes que ces médias doivent mettre en avant.
Car l'empire médiatique du clan de Viktor Orban, télévision publique mais aussi de nombreux médias privés, est très centralisé, avec aux manettes une seule direction de l'information qui indique aux rédactions ce qu'il faut publier. Sur la guerre en Ukraine, ces médias laissent entendre que la Russie n'est pas vraiment l'agresseur et n'a fait que répondre aux provocations de Kiev. Ce narratif est rentré dans la tête des électeurs de Viktor Orban, comme Ilona, secrétaire à la retraite.
Les Russes ont été obligés de riposter parce que que les Russes ont été tués. Vous savez, la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique d'antan. Poutine, il ne supporte pas ces idiots qui sont pour la globalisation, pour l'idéologie de genre et toutes ces bêtises. Et il a raison.
Et quand le gouvernement fait placarder dans les rues des affiches anti-Bruxelles, Ilona reçoit le message 5 sur 5.
Moi je dis, vive Orban, vive la Hongrie et vive les gens normaux. Ursula von der Leyen n'a qu'à dégager. Elle est corrompue comme ses centaines de fonctionnaires autour d'elle. Ils sont tous payés et manipulés par le réseau de George Soros.
C'est dans un bel immeuble du centre-ville de Budapest qu'est installée la rédaction de LACMUS. Ce journal web est l'un des acteurs du programme lancé par l'Union européenne pour lutter contre la désinformation. Financé par Bruxelles, les 8 journalistes de LACMUS décortiquent les fausses nouvelles. Exemple avec ce message du gouvernement Orban qui dit que la Commission européenne veut priver les retraités hongrois de leur 13e mois de pension. Blanka Zöldi est rédactrice en chef de LACMUS.
En réalité, Bruxelles n'a absolument pas l'intention de demander la suppression du 13e mois de pension. L'Union européenne elle-même a dit que ce n'était pas vrai.
Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit Viktor Orban à son bureau qui montre à la caméra une feuille de papier, un document censé prouver que la Commission européenne veut dépouiller les retraités hongrois.
Quand on zoome sur ce document, on voit que le document est daté de 2017 et qu'il ne parle pas des retraites. D'ailleurs, en 2017, le 13e mois de pension n'avait même pas été mis en place. Il suffit de gratter un peu la surface de ces vidéos de propagande pour voir la réalité. C'est ce qu'on essaie de montrer à nos lecteurs.
Dans cette guerre de l'information, la communication du gouvernement Orban est de plus en plus sophistiquée. Des influenceurs financés par le gouvernement diffusent des vidéos bâties sur ce que Blanka Zöldi appelle un narratif hostile.
Le narratif hostile, c'est plus que de la désinformation. Vous transformez vos opposants politiques en ennemis. Vous prenez des éléments de désinformation et autour de ça, vous écrivez une histoire avec des effets dramatiques, images et sons et des statistiques trompeuses. Et cela fait un message très puissant qui est répété en boucle.
Dans une vidéo, Daniel Bohar, un influenceur pro-Orban, affirme que l'opposition hongroise veut envoyer les Hongrois se battre en Ukraine. On y voit un extrait d'un discours de Ferenc Gyurcsány, le chef d'un des partis d'opposition, qui déclare « Quand on est en guerre, il faut des munitions ».
Cette citation a été détournée de son contexte. En réalité, Gyurcsány parlait du combat politique de l'opposition contre Orban. Il ne parlait pas du tout de la guerre en Ukraine.
Grâce notamment à ce narratif hostile diffusé sur de nombreuses plateformes, le parti de Viktor Orban a gagné les élections en 2022. Face à l'énorme machine de propagande gouvernementale, le petit portail LACMUS est comme la mouche du coche. Il ne peut pas arrêter la machine, mais le nombre de ses lecteurs, 300 000 chaque mois, est en augmentation. Et ces enquêtes sont souvent citées dans d'autres médias.
Reportage de Florence Labruyère à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10 temps universel. L'Europe sous la menace de manipulation russe en ligne. L'année dernière a été marquée par plusieurs attaques de déstabilisation en France par exemple. De nombreuses attaques, dit même l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans son dernier rapport. Et ça ne sera pas mieux en 2025, Dominique Dezonnet, puisque des hackers pro-russes revendiquent déjà des cyberattaques contre des entreprises ou bien contre des institutions françaises.
Oui, en Europe, la France occupe une position peu enviable sur le front de la cybersécurité. Elle est déjà la championne européenne des appels et des spams en ligne, selon le rapport EIA, le spécialiste britannique de la sécurité des communications par mobile. Selon ses analyses, les arnaques ciblant les particuliers par courriel ou par SMS se multiplient avec une envolée des messages de fausses livraisons de colis ou encore des sollicitations bancaires frauduleuses. Du côté des appels par mobile, là aussi, rien ne va plus. Les programmes IA permettent maintenant aux escrocs d'utiliser les technologies de clonage vocal pour convaincre leurs victimes qu'un de leurs proches a besoin d'une aide financière urgente.
Mais l'Agence française de cybersécurité dénonce aussi un regain d'activité des attaques dites étatiques menées par la Russie.
Effectivement, et pas plus tard qu'hier, les hackers pro-russes Noname ont revendiqué une série d'attaques contre les intérêts vitaux de la France, affichent leur leurs réseaux sociaux. Le groupe pirate a fourni la liste des dizaines de sites internet qu'il a déjà pu ralentir ou faire tomber. Au-delà des messages de propagande habituels, ce conglomérat de trolls à la solde de Moscou précise avoir lancé ses attaques après les déclarations du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sur les avoirs russes gelés qui seraient employés pour financer le réarmement de l'UE et la défense de l'Ukraine.
Et ces attaques auraient touché de nombreuses sociétés françaises.
Oui, des entreprises ou leurs filiales, comme Vinci, France Télévisions Publicité, l'éditeur Microïd, et bien d'autres ont été cyberagressés, revendique le groupe russe No Name sur ses réseaux sociaux. Les pirates annoncent avoir lancé des opérations de type DDoS, consistant à saturer des sites ou des services en ligne en les inondant de millions de requêtes Internet simultanément. Toutefois, ces attaques, bien que spectaculaires, n'occasionnent pour l'instant que peu de dégâts sur les systèmes d'information des sites web visés. Mais ces actions démontrent que les menaces de la Russie dans le cyberespace sont à prendre au sérieux dans le contexte géopolitique tendue de la guerre en Ukraine, alerte le patron de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il remarque aussi que les pirates pro-Poutine profitent de la situation des négociations en cours entre les Américains et le Kremlin sur fond de guerre en Ukraine, ainsi que du gel de la coopération en matière de cybersécurité entre Paris et Washington pour intensifier leurs attaques.
Dominique Dezonnet pour notre Monde de Tech. À demain.
RFI Midi, Anne Cantner.
Il y a la guerre en ligne, la guerre informationnelle et bien sûr il y a la guerre sur le terrain et la volonté des Européens de s'armer davantage, de moins dépendre des États-Unis. L'Union européenne veut investir des sommes fantastiques, écrit Die Presse en Autriche, en accusant le futur chancelier allemand d'orchestrer la plus grande orgie de dettes de l'histoire du pays. Un armement à la va-vite et à crédit, cela impressionnera-t-il les Russes, se demande le quotidien. Le doute est permis. El País se demande si l'Espagne doit elle aussi augmenter ses dépenses de défense. Pour l'instant, commente le journal, le pays aborde la question en queue de peloton de l'OTAN. Deux personnalités sont interrogées sur cette question, deux anciens chefs d'état-major. Le premier estime que l'Espagne doit investir plus et mieux. Le second, que la sécurité, c'est d'avoir un toit au-dessus de la tête et pas des chars d'assaut. Selon lui, les guerres sont avant tout la preuve de l'échec de la politique. Et puis au Portugal, Diario de Noticias se penche sur les conditions d'avortement dans l'archipel des Açores. Le taux d'interruption volontaire de grossesse y est 60 fois inférieur à celui de l'île de Madère, par exemple, alors que les femmes en âge d'avoir des enfants sont plus nombreuses. Autre chiffre, les adolescentes sont deux fois plus nombreuses à avoir des enfants. Contrairement à ce que dit le gouvernement, les chiffres montrent une discrimination, titre le quotidien portugais, rappelant qu'aucun organisme ne contrôle l'application de la loi sur l'accès à l'avortement dans les Açores.
RFI, l'Europe à midi.
Direction la Bosnie, où l'étau se resserre autour du président de l'entité serbe, Milorad Dodik, récemment condamné et désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt. Nous sommes en direct avec notre correspondant Laurent Rouy. Mandat d'arrêt donc, Laurent, mais lui poursuit sa politique séparatiste.
Oui, bonjour. Alors effectivement, les événements s'accélèrent en Bosnie et en Republika Srpska. Le Parlement de l'entité serbe se prononce aujourd'hui sur une constitution aux accents séparatistes. Et c'est le dernier signe de la fuite en avant du président de cette entité, Milorad Dodik, qui est, je le rappelle, un proche de Poutine. En 18 ans de pouvoir, Dodik a systématiquement tenté d'affaiblir l'État bosniaque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été condamné fin février à 1 an de prison et à 6 ans d'interdiction d'exercer la politique. Il s'était opposé au tribunal constitutionnel. Ce matin, le procureur a donc émis un mandat d'arrêt contre lui et contre 2 autres politiciens séparatistes. De plus, nombre de figures politiques bosniaques et surtout l'administration Trump, dont il espérait un soutien, ont désavoué Dodik. De plus, son allié traditionnel local, le président serbe Aleksandar Vučić, fait face dans son pays à une contestation anticorruption sans précédent qui rend hypothétique tout soutien significatif. Alors reste à savoir si la police serbe de Bosnie arrêtera son leader, aujourd'hui très isolé, ou alors tentera peut-être de l'accompagner dans sa course sécessionniste.
Laurent Rouy, correspondant dans la région pour RFI. Il est 11h49 en temps universel. L'actualité européenne, c'est aussi le foot. Le dernier tir du PSG, la victoire pour le club parisien hier soir en huitième de finale de la Ligue des Champions. 4-1 sur le terrain de Liverpool, une semaine après avoir été battu 1-0 à domicile. Ce matin, le journal sportif, l'équipe titre carrément « super-héros ». Et il faut le dire, Cédric de Oliveira, cette qualification en quart de finale, c'est l'un des plus beaux exploits du club parisien.
Épuisé mais soulagé, tendu puis tout simplement heureux, Nasser El Khelaifi est passé par toutes les émotions à Liverpool. Le président du PSG qui a conscience d'avoir vécu un moment particulier pour son club.
Soirée parfaite pour nous, les joueurs, les coachs, le staff, tout le monde, les supporters. On a mérité cette qualif. Pas facile, mais j'ai le sentiment avant le match, j'ai dit c'est notre soir.
Il fallait un grand PSG pour s'imposer à Anfield. Il y a eu ce but rapide d'Ousmane Dembélé pour effacer la défaite de l'aller. Et puis cette séance de tirs au but survolée par Gianluigi Donnarumma qui a sorti deux tentatives des Reds. Fautif la semaine dernière au Parc des Princes, le gardien italien s'est rattrapé et son capitaine Marquinhos s'en réjouit.
On est très heureux pour lui. Avant les tirs au but, j'ai dit ce match il est fait pour toi. Il a montré ce qu'il est capable. C'est un grand. C'est un mec qu'on veut vraiment qu'il soit décisif comme ça parce que ça nous fait vraiment de bien.
En éliminant le Liverpool de Mo Salah, encore impuissant, le PSG a montré à toute l'Europe qu'il était un candidat sérieux à la victoire finale. Mais pour Ousmane Dembélé, il y a encore du chemin.
Il n'y a que des favoris quand on voit l'UFC Barcelone. Jouer, le Real Madrid qui est encore dans la compétition, l'Inter, il n'y a que des grosses équipes et t'arrives en quart de finale, c'est que la bagarre qui est là.
La prochaine bagarre en quart de finale aura lieu dans un mois après la trêve internationale, le temps pour le PSG de se remettre de ses émotions. Cédric de Oliveira, Liverpool, RFI.
Le PSG qui affrontera en quart de finale le vainqueur du match entre Aston Villa et Bruges, prévu ce soir, et un autre club français aura la possibilité de se qualifier tout à l'heure. Lille reçoit le Borussia Dortmund, finaliste l'année dernière. À l'aller, les deux clubs avaient fait match nul, un partout, donc la balance est un tout petit peu plus favorable pour les Lillois qui joueront à domicile et qui visent une qualification historique, Thomas de Saint-Léger.
C'est une impression, un mirage peut-être. Jamais pour Lille, la porte des quarts de finale n'avait semblé si simple à forcer. L'adversaire, le Borussia, est en crise, dixième seulement de son championnat. Et puis les nordistes reçoivent chez eux où le Grand Real est tombé en octobre dernier. De là à se voir favori, il n'y a qu'un pas que Jonathan David ne franchit pas.
Non, je crois pas. C'est d'abord une équipe avec beaucoup d'expérience, de bons joueurs qui ont déjà été dans une situation comme ça. Les finalistes de la Champions League l'année dernière, au moins on part par favori.
Difficile de contredire l'attaquant lillois. En Europe, les dogs ont un pédigré de chihuahua. Alors forcément, la dimension historique d'une potentielle qualification est un enjeu dangereux pour l'entraîneur Bruno Genesio.
Il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas qu'on ait à l'esprit qu'on peut rentrer dans l'histoire, que c'est un match peut-être le plus important pour le club, etc. Il faut simplement se concentrer sur ce qu'on a à faire pour atteindre cet objectif.
Encore faut-il le faire comprendre à des joueurs encore jeunes, choisir ses mots pour faire passer les idées, motiver les troupes sans les inhiber.
Il faut être à 100%, pas à 105 ou 110, parce que si vous êtes à 105 ou 110, ou surjouer. Donc simplement se préparer comme on a l'habitude de le faire. On a déjà fait des performances ici à Pierre-Mauroy en Champions League. À nous de mettre les mêmes ingrédients pour faire le maximum.
Et pour contenir aussi l'atout maître du Borussia Dortmund, l'attaquant guinéen Serou Guirassy, meilleur buteur de la compétition.
Guirassy, meilleur buteur jusqu'à hier soir, et le doublé de Rafinha pour Barcelone qui s'est imposé et affrontera donc au prochain tour le vainqueur de ce soir, Lille-Dortmund. La rencontre commence à 17h45, temps universel. Également au programme, un duel madrilène entre l'Atlético et le Real, et puis Arsenal-PSV Eindhoven. On va parler cinéma à présent. Le mercredi, c'est jour de sortie en France et arrive sur les écrans aujourd'hui le film Délocalisé. L'histoire d'un ouvrier qui provoque ses patrons et décide d'aller travailler en Inde où son usine a été délocalisée. Donc, les réalisateurs Ali et Redouane Bougueraba sont au micro de Sophie Torlotin pour en parler.
Ali Bougueraba, bonjour.
Bonjour.
Et Redouane Bougueraba, bonjour.
Hello.
Vous êtes frère et vous signez à deux le film Délocalisé dans lequel vous incarnez Redouane, un ouvrier heureux de passer contre-maître et qui va partir en Inde pour prendre au mot les patrons voyous qui ont délocalisé donc l'usine, les outils de production, pour profiter en Inde du bas coût du travail. Vous traitez par l'humour d'une situation souvent dramatique.
C'est une grosse tragédie française et même européenne et qui continue à l'être. Oui, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qui fait mal. Et pour cicatriser, on a essayé de faire un petit peu cette comédie. Il y a une comédie romantique aussi à l'intérieur, une belle histoire d'amour qui se noue. Mais tout ça sur un fond social qui est la délocalisation, malheureusement, qui touche beaucoup de Français.
C'est jour de paye aujourd'hui. On va récupérer l'argent.
C'est combien ça en euros? Je suis contremaître et vous me donnez 200 euros.
Oh, vous savez le code du travail en Inde. C'est comme Jean-Claude Van Damme. C'est très souple.
Redouane, votre personnage va encourager ses collègues indiens à faire grève. Il va leur apprendre la façon française d'être salarié.
Si on sort de France, moi je vis en Angleterre, je sais qu'on est vu comme des grévistes. Ils me disent, vous travaillez jamais les Français, vous êtes tout le temps à grève. Et après, c'est vrai qu'on a vu que la France dominait le monde avec 117 jours de grève par an. Donc cette image qu'on avait à travers le monde, je voulais justement l'adapter aux Indiens. Pour se venger de la délocalisation et pour se venger aussi de son salaire, parce que son salaire est indexé en roupies, je me suis dit que j'allais faire couler l'usine en amenant la grève, les tickets resto, les semaines de 4 ou 5 jours avec les 35 heures. C'était le moyen de mon personnage de lutter justement contre ces patrons voyous.
Qu'est-ce qui se passe ici?
C'est la merde, monsieur Berthelot.
La merde?
La AMERN, Association Autonome Médiation Économique Relation Direction Employé.
Qu'est-ce que c'est que cette merde?
La AMERN!
Que vous a apporté le tournage à tous deux, Ali Redouane Bougueraba, parce que vous avez tourné à Calcutta?
Ben déjà, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, mais j'ai envie de dire ils forment la vieillesse aussi, parce que on est allé, moi je suis jamais allé en Inde, on s'est pris vraiment une claque professionnelle, une claque visuelle, spirituelle. On a appris à travailler avec des gens qui ont un professionnalisme hors du commun. Bollywood est la première industrie cinématographique au monde, et on sait pourquoi. On a eu avec nous des équipes indiennes qui nous ont permis de réaliser ce film encore au-delà de nos espérances.
Redouane, vous êtes humoriste, vous avez l'habitude de la scène. Je crois que vous avez rempli le Vélodrome de Marseille. C'est pas rien. Là, vous avez des envies de grand écran.
Ben oui, non, mais ça faisait un moment que je tournais au cinéma. C'est pas mon premier film. J'ai eu plusieurs rôles en rôle secondaire. Et c'était et une envie de moi et une envie du public de me voir dans un premier rôle. C'est mon premier rôle. C'est ma première fois. Et j'ai pris un plaisir incommensurable à le faire, à le concevoir, à jouer dedans, à l'écrire, à co-réaliser avec mon frère. Je sais qu'avec mon spectacle, il n'est pas tout public mon spectacle parce que pour les jeunes, il y a des références qui peuvent, et de un, ne les pas toucher. Il y a certaines blagues qui sont sous la ceinture. Mon spectacle, pour moi, il est déconseillé au moins de 21 ans. Et là, on arrive avec un film tout public où on peut aller le voir de 3 à 90 ans. De faire un film tout public qui touche énormément de gens et qui est un feel-good movie, nous, on a réussi notre pari.
Ali Redouane Bougueraba, merci.
Merci RFI.
Les réalisateurs du film Délocalisé au micro de Sophie Torlotin. La suite sur RFI, c'est un nouveau journal dans 3 minutes et puis à midi et demi temps universel, l'actualité africaine. Avec vous Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Et vous nous parlerez aujourd'hui?
Nous irons au Caire à l'Assemblée Générale Élective de la CAF avec la reconduction sans surprise du Sud-Africain Patrice Motsepe à la tête de la Confédération. Il était seul candidat. On notera aussi l'entrée au comité exécutif de cette CAF du Camerounais Samuel Eto'o et d'une Congolaise de RDC. C'est une première, Bestine Kazadi. Et puis le président angolais Lourenço annonce travailler à des discussions directes entre le gouvernement du Congo et le groupe armé M23. Jusqu'à présent, la RDC les refuse, ces discussions directes. Félix Tshisekedi estime que les seules négociations possibles sont à faire avec le Rwanda.
Nicolas Sûr, on vous retrouve à midi et demi, temps universel. Et pour l'heure, on écoute un peu de musique. Lam Lam de Koutou, c'est un titre à écouter en ce moment dans la playlist RFI, disponible sur les plateformes musicales.
Tajer,
RFI Midi.